l'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac, qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Larzac pour l'actu sur un plateau, le tour d'horizon de l'actualité locale sur nos ondes et aussi sur notre site radiolarzac.org. Salut Nico.
Salut Sophia.
Alors pour cette émission, il faut le préciser, nous ne sommes pas en direct comme d'habitude car je serai en formation au moment de la diffusion. Mais on vous a quand même cousu une émission faite de plusieurs interviews et un reportage que j'ai réalisé ces derniers jours. Alors en fin de mission, vous allez retrouver Céline d'Aporia Culture. Elle nous présente la nouvelle saison Les Petites Ailes de l'association. Elle est consacrée aux oiseaux et à la biodiversité. Et il y a deux expositions et plusieurs événements à Ping-Pong-le-Toit à Millau. Juste avant, un reportage sur la résidence de création de Justine Wojtyniak de la compagnie Retour d'Ulysse au musée de Millau autour de la cantatrice Emma Calvé. Et puis on commence en musique avec l'interview de Christophe Panzani qui sera en concert dans le cadre de la saison de Millau en Jazz. Et c'est parti! Alors on commence avec Philippe, directeur artistique de Millau en Jazz, et Christophe Panzani que nous avons eu au téléphone pour présenter le concert qu'il donnera ce samedi 20 avril à 20h30 au théâtre de la Maison du Peuple de Millau. Il donnera aussi un stage de jazz aux musiciens et musiciennes amateurs ou en voie de professionnalisation. Il nous a parlé de tout ça et de son dernier album Mers Océans. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Donc tu es le directeur artistique de Millau en Jazz.
Entre autres, oui.
Et on te reçoit aujourd'hui pour présenter le concert de Christophe Panzani, saxophoniste, ce samedi 20 avril au théâtre de la Maison du Peuple de Millau à 20h30. Et Christophe Panzani est au téléphone avec nous, bonjour.
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 Alors Philippe, donc Christophe Panzani viendra présenter son dernier projet, Mers Océans, accompagné de Tony Peilman au clavier, puis de Enzo Carniel au piano et Guillaume Flouza à la batterie. Qu'est-ce qui t'a incité à le programmer dans la saison donc, de Millau en Jazz?
Alors en fait, la première rencontre qu'on a eue avec Christophe, c'était lors de sa venue avec Anne Passeo, il y a quelques années, ou pas si, c'est pas si vieux que ça, et on avait échangé effectivement sur ses projets, et en plus la particularité de cette invitation, elle va aussi dans le sens où Christophe va pendant 3 jours encadrer un stage destiné à des musiciens amateurs éclairés. Et effectivement, on était à la recherche d'un musicien qui est à la fois qui a déjà à la fois un beau projet artistique, mais qui en plus est pédagogue, qui était en mesure de pouvoir accompagner ses stagiaires pendant 3 jours. Et voilà, on a regardé un petit peu dans tout ce qu'on pouvait, les artistes qu'on pouvait inviter, et Christophe est venu assez vite en se disant, c'est sûrement l'artiste idéal pour faire ce genre de projet, d'autant que l'approche qu'on a avec les stagiaires, l'offre qu'on fait à ces stagiaires, c'est toujours d'aller de leur permettre de découvrir un autre univers que ce, peut-être qu'ils ont l'habitude de voir et ou d'écouter, et du coup c'est aussi l'intérêt de ce stage, c'est que on va aller amener les stagiaires dans des endroits où ils ont peut-être pas forcément l'habitude d'aller. D'ailleurs, Christophe nous en dira un petit peu plus sur le contenu de ce stage, mais c'est vrai que pour nous c'était l'artiste idéal pour ce genre de projet, quoi. Et en plus, avec cette actualité, donc ce disque qui vient de sortir, c'était vraiment le bon timing.
Et oui, en effet, donc ce dernier projet, Mers Océans, tu dis, Christophe Panzani, à ce propos, je te cite, « Toute la musique écrite pour ce disque a été écrite du vivant de ma mère, lorsque ma mère a petit à petit perdu l'usage de la parole suite à un cancer du cerveau. Quand elle a renoncé à poursuivre tout traitement, sachant qu'elle ne pouvait plus gagner, j'étais démunie et loin d'elle. » Cet album, c'est donc une sorte de souvenir, de collecte de mémoire liée à ta mère ?
Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi... c'est d'abord vraiment un moyen de communiquer avec elle autrement qu'avec la parole. Donc c'était d'abord vraiment d'essayer d'exprimer tout ce que je voulais exprimer à travers les sons, puisque j'avais plus que ça. Mais en même temps, ça finalement, ça tombait bien. Enfin, si j'avais été peintre, je lui aurais peint des tableaux, mais je suis musicien et donc je lui ai écrit et enregistré de la musique.
Et donc, ton intention, c'était de parler plutôt à ta mère ou parler d'elle, ou les deux peut-être ?
Ben non, au départ, mon intention, c'était de vraiment de lui parler à elle. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à savoir est-ce que cet album, est-ce que cette musique allait devenir la musique d'un album, ou est-ce que c'était une musique qui allait rester une musique intime et familiale, quoi. Mais autour de moi, j'ai malheureusement plusieurs amis qui ont vécu un peu le même drame que moi à peu près au même moment, et j'ai vraiment réalisé que c'était pas qu'une histoire personnelle, mais que c'était une histoire c'est une histoire universelle, en fait. La perte, c'est quelque chose qu'on est tous amenés à être confrontés. Et donc voilà, donc j'ai décidé que cette musique elle avait du sens, en fait, à exister en tant que telle.
Oui, en effet, c'est quelque chose de très intime et pourtant universel, on pourrait dire.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et d'ailleurs, ce titre m'a interpellée aussi, Mères Océans. Quel est ton rapport à l'océan ?
Là, pour le coup, c'est surtout le rapport de ma mère à l'océan. D'une part, l'océan est une figure maternelle, dont l'eau, c'est la maternité. Enfin, c'est vraiment un symbole très fort de la mère et de la maternité. Et il se trouve que ma mère, elle adorait l'océan, elle adorait la mer. Et voilà, donc c'est là, pour le coup, un hommage à elle.
Est-ce qu'elle a pu écouter quelques-unes de ses compositions ?
Oui, bien sûr. C'était vraiment le but. Hein. J'ai écrit toute cette musique et je l'ai enregistrée, pas sous la forme qu'elle a maintenant sur le disque. Hein. J'ai fait avec les moyens du bord, avec mon ordi, ma carte son, mon micro, et j'ai fait tout ce que je pouvais faire seul. Mais ensuite, pour l'album, on a tout réenregistré en studio. Avec d'autres musiciens, mais oui, elle a écouté la plupart de cette musique. Oui.
Ce qui est beau dans cet album, même si je l'ai pas encore écouté en entier, c'est que on ne trouve pas que des musiques tristes. En fait, il y a aussi des musiques assez joyeuses, assez rythmées. Donc voilà, c'est j'ai l'impression que c'est vraiment des souvenirs et pas que des chansons sur le deuil finalement.
Bah oui, bien sûr, parce que enfin, elle avait déjà tellement de choses tristes. Ouais. Je ne voulais pas lui faire écouter en plus de la musique triste. Au contraire, je voulais. C'est vrai qu'au début, ça a été ma première réaction, quoi, parce que, enfin, forcément, la tristesse. Mais ensuite, j'ai aussi voulu, au contraire, lui amener de la joie. En fait, la joie que moi j'avais eue en tant qu'enfant et la joie d'être son fils, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que effectivement il y a beaucoup de mémoires, de sensations joyeuses, de moments qu'on a partagés, et voilà. Non, c'est pas une musique sur le deuil, au contraire, c'est plutôt une musique sur la vie, finalement.
Et pour toi, Philippe, qu'est-ce qui t'a plu dans cet album ?
Ouais, c'est remarquable ce que tu es en train de nous dire là, parce qu'effectivement, on prend bien toute la dimension que peut avoir la musique à travers comme un langage à part entière. C'est-à-dire que parfois, on ne trouve pas les mots, ou on n'a pas les mots pour exprimer les sentiments, quels qu'ils soient. Et je trouve que ce que tu as fait avec ces compositions, je pense que... là, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité. Et franchement, je pense que tu peux effectivement le partager avec tout le monde. Après l'avoir partagé avec ta mère, tu peux largement le partager avec tout le monde, avec le public, avec quelque chose qui est devenu universel. C'est-à-dire que voilà, c'est accessible à tous et on va tous y trouver quelque chose qui va sûrement nous émouvoir. Ça a été le cas, quoi.
Et donc, Christophe Panzani, tu vas animer, comme disait Philippe, un stage de jazz pour des musiciens, musiciennes amateurs ou en voie de professionnalisation. En quoi la transmission est importante pour toi ?
C'est très important pour moi parce que pour moi, la musique est très importante. Donc, forcément, je pense que ça peut amener énormément à tous, en fait. Moi... clairement, la musique a été pour moi, je sais pas comment dire, c'est devenu ma vie, mais c'est aussi, ça a été ma bouée, en fait, un peu. C'est, C'est ce qui m'a permis de, c'est ce qui m'a permis de voyager partout dans le monde. C'est ce qui m'a permis de rencontrer toutes les personnes les plus chères à mon cœur et tous mes meilleurs amis. C'est devenu mon moyen d'expression privilégié. C'est une telle source d'apprentissage. C'est quelque chose qui est, comme tous les arts, c'est quelque chose qui est infini. C'est quelque chose qui n'a pas de fin. On peut continuer de créer jusqu'à la fin des temps. En réinventant, en cherchant, c'est vraiment une quête sans fin, comme l'ont dit beaucoup d'artistes, et c'est une source aussi infinie de joie, de sensations, d'émotions, et donc par là même c'est un objet de partage important comme tout art en fait, comme toute chose artistique qui a été créée par l'homme. Et donc, moi, j'adore ces moments. En plus, maintenant, j'ai moins l'occasion d'enseigner parce que j'ai beaucoup de concerts et beaucoup d'activités de musicien. Donc, ce que j'ai longtemps fait avant d'être enseignant, d'être formateur pour les enseignants de musique, j'ai dû m'éloigner un petit peu. Et donc là, à chaque fois que cette situation se représente, c'est vraiment une grande joie et là, donc, je suis impatient de rencontrer tous ces musiciens et de passer ces 3 journées avec eux. Et je sais que ça va être 3 jours très, très intenses. Et je suis en plein, vous me prenez en plein dans l'élaboration des arrangements de cette musique pour eux. Et j'ai vraiment hâte d'entendre ça joué par tout ce beau monde.
Pour les stagiaires, tu as travaillé à partir de tes compositions ou sur des choses un peu plus standards ou
oui,
ou
oui, alors non, j'ai exclusivement travaillé sur mes compositions.
D'accord.
Parce que c'est ce que je connais le mieux.
Ouais, puis c'est quand même il y a de la découverte.
Le travail des standards, je l'ai énormément fait et je continue de le faire pour moi et c'est une source d'apprentissage très 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 grande et aussi c'est vraiment la tradition de cette musique. Mais je pense que c'est aussi l'objet principal de leur travail dans les cours qu'ils prennent et donc je pense que je suis moi plus à même de leur parler le mieux de la musique que j'écris moi et donc
voilà. Ouais, tu vas les amener ailleurs quoi en fait.
Mon but c'est de leur faire travailler la musique en fait.
Bien sûr.
Et ça c'est qu'un support, c'est qu'un moyen. Et donc le support comme je le connais très bien, vu que c'est moi qui l'ai écrit, je serai plus libre de pouvoir les amener à travailler vraiment sur le fond de la musique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on est capable de produire comme son. Qu'est-ce qu'on entend réellement, comment est-ce qu'on peut faire grandir la musique qu'on a à l'intérieur de soi, des questions en fait, des questions qui sont essentielles mais qui sont souvent un peu relayées à l'après dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'on part assez souvent on pense qu'il y a un préalable qui est on doit d'abord apprendre l'instrument, d'abord apprendre la grande musique, d'abord apprendre le solfège, et ensuite peut-être un jour vous aurez la chance de exprimer quelque chose. Et je pense, en fait, souvent, on n'a pas le temps parce que souvent soit on arrête avant, malheureusement parce que c'est très long un parcours d'apprenti musicien et la plupart arrêtent avant d'avoir eu la chance de pouvoir fabriquer leur propre musique ou en tout cas, on cru que c'était pas possible. Et moi, ce que je veux leur montrer, c'est que si on peut faire grandir la musique qu'on a envie de faire et qu'il suffit de s'attacher à travailler les choses les plus fondamentales qui sont qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je suis capable de reproduire, qu'est-ce que je peux jouer avec mon instrument. Enfin voilà, des choses essentielles et qui viennent directement de la pratique de la musique de jazz en fait. Plus que de la musique écrite, où là, effectivement, si on ne sait pas lire la musique, on va avoir... Enfin, on déplace, en fait, les choses. Si on va être un exécutant de la musique et capable de jouer des partitions, alors, effectivement, tout ce qu'il faut savoir, c'est relier un signe avec une manière de produire le son sur son instrument. Mais si on veut être capable de faire de la musique, simplement, d'inventer de la musique ou de jouer de la musique avec d'autres, ben c'est pas forcément la seule chose qu'on a besoin d'apprendre, c'est pas forcément la lecture, mais il y a beaucoup d'autres choses.
Super.
Ouais, ça promet, ça promet plein de choses. Ouais. Et donc, ces stagiaires vont se produire, Philippe, en première partie.
Absolument. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on est très attaché. C'est-à-dire qu'il suffit pas effectivement de travailler dans son coin. Et à un moment donné, il faut aller à la rencontre des publics. Il faut montrer ce qu'on a écrit, ce qu'on a découvert, ce qu'on a envie de partager. Et ça passe par un moment, sur scène, en face d'un public qui vient vous écouter et qui vous allez apporter des émotions. Et je crois que ça fait aussi partie du travail du stage, quoi, de pouvoir, à un moment donné, faire une restitution de ce travail pendant les 3 jours. Et on est toujours très agréablement surpris parce que, comme disait Christophe, c'est effectivement ces 3 jours qui sont très intenses. Mais comme on a des stagiaires qui sont hyper motivés, on se rend compte qu'effectivement, le résultat est souvent bluffant. Et là, je ne doute pas que ça sera aussi le cas pour ce stage et cette soirée.
Et oui, en effet. Donc, merci beaucoup à toi, Christophe Panzani.
Merci.
Christophe, tu me disais hier que tu étais en studio. Tu es sur un nouveau projet ou tu étais en invité ou
sur le prochain album de Pierre Perchaud, le guitariste Pierre Perchaud.
D'accord.
Voilà, on a passé 4 jours en studio ensemble, sur sa nouvelle musique.
À suivre.
Super. Merci en tout cas. À très vite.
À très très vite, merci beaucoup.
Et oui, donc à bientôt pour le concert de Christophe Panzani, accompagné de Tony Pailman, Enzo Carniel et Guillaume Flouza, ce samedi 20 avril à 20h30 à Millau, dans le cadre de la saison de Millau en Jazz, au théâtre de la Maison du Peuple. Et puis les billets sont toujours en vente sur Millau Jazz.
Merci.
Pour rester dans le thème, on écoute Gâteau aux noix de Christophe Panzani. C'est un morceau inspiré du gâteau justement que sa mère préparait souvent et c'est dans son dernier album Mers Océan.
Thank you.
Gâteau aux noix de Christophe Panzani sur Radio Larzac dans l'actu sur un plateau. On continue avec un nouveau sujet en lien avec la musique. Je suis allée à la rencontre de Justine Wojtyniak et de Katia Fersing à l'occasion d'une résidence de création autour d'Emma Calvé au musée de Millau.
Ceci n'est pas un traité sur l'art du chant. Ce n'est surtout point une œuvre littéraire. Telle qu'elle est, je la livre au public avec l'émoi d'une débutante qui affronte le feu de la rampe. Les rideaux s'élèvent. Ce n'est pas la première fois que j'entre en scène. J'aperçois du reste dans la salle bien des visages qui me sont familiers. Chers amis qui m'écoutez, je réclame toute votre indulgence.
À la fin du mois de février, Justine Wojtyniak, comédienne et metteuse en scène de la compagnie Le Retour d'Ulysse, a passé une semaine en résidence de création au musée de Millau et des Grands Causses. Le but, c'était de travailler sur la figure d'Emma Calvé, la cantatrice de la Belle Époque.
Les voyages m'est aussi nécessaire que les chants. En me déplaçant, je prouve la vague sensation d'échapper au temps. À la destruction.
Née à Decazeville en 1858, Emma Calvé connaît le succès dans le monde entier en interprétant un large répertoire d'opéras allant de Hamlet à la Traviata en passant par Carmen, rôle-titre qu'elle interprète plus de 1000 fois au cours de sa vie.
J'espère mourir en chantant.
Photographies, disques, partitions, bijoux, costumes et autres accessoires de scène ayant appartenu à Emma Calvé sont exposés de façon permanente au musée de Millau. Sa directrice, Katia Fersing, explique l'intérêt de cette résidence artistique.
Au musée, on a un ensemble de collections qu'on conserve et qu'on présente et qu'on partage avec le public. Et il se trouve qu'en 2025, on souhaite se concentrer en particulier sur la collection Emma Calvé. Emma Calvé, c'est une cantatrice de la Belle Époque, née en Aveyron, qui a eu une carrière exceptionnelle dans le monde de l'opéra et du chant lyrique. Et donc, c'est une femme de scène et elle a incarné de façon extrêmement vigoureuse et passionnée les personnages qu'elle a joués. C'est une femme du spectacle vivant. Voilà pourquoi, en lien avec cette collection, on a souhaité faire un pont avec justement le spectacle vivant et on a souhaité inviter une artiste du territoire à s'emparer des ressources qu'on présente ici au musée pour peut-être porter un regard différent ou en tout cas ancré dans le temps présent sur cette collection et sur cette femme hors du commun qu'est Emma Calvé.
Je vais m'endormir sur la grande mer berceuse,
le cœur
content d'avoir fait mon devoir de bonne petite française.
À l'issue de sa résidence, Justine Wojtyniak a présenté une petite forme de spectacle au public, fruit de ses recherches et de sa permanence au musée. Tout commence par une photo d'Emma Calvé à la fin de sa carrière que le public est invité à observer.
Vous voyez une femme. Elle porte une robe d'un autre temps ou une robe d'un personnage. Elle vous regarde de derrière un éventail. Elle vous regarde droit dans les yeux.
Puis on découvre des objets ayant appartenu à la cantatrice ainsi que des extraits de ses écrits interprété par Justine Wojtyniak.
La rampe qui m'aveuglait. Et de l'autre côté, ces trous noirs de la salle où je voyais confusement une hydre à mille têtes dont je sentais les regards braqués sur moi.
J'ai l'impression qu'effectivement, tout l'enjeu autour de cette collection et la façon dont on parle de cette grande cantatrice, actrice, est complètement à réinventer parce que tout ce que j'ai trouvé au tout début de mes recherches, je me suis dit, mais en réalité, je n'ai pas accès à cette femme. Alors aujourd'hui, ils sont 66 ans, je ne sais pas qui est-ce, tout est à imaginer. Et puis assez rapidement, quand on creuse, qu'on commence à la lire surtout, on se rend compte qu'on a affaire à une femme très libre, complètement en avant-garde avec ses recherches spirituelles, ses recherches sur l'orientalisme, sa façon de percevoir la vie, de percevoir aussi son métier, c'est-à-dire ce dévouement total à un art aussi. Je crois que la première chose qui m'a vraiment beaucoup frappée, c'était le moment où je trouvais ses écrits d'Espagne, où elle est partie en Espagne, en Andalousie, pour étudier le comportement des tziganes, leur danse, leur musique, pour pouvoir amener tout ça dans le rôle de Carmen. Et là, c'est une démarche extrêmement pionnière et qui date du fin du 19e siècle. Et c'est génial. Et en fait, ça nous ouvre des portes et on se dit, mais ces femmes-là, elles ont énormément travaillé pour que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on soit là où on est. Elles y sont aussi pour quelque chose.
Vous voyez une femme. Vous voyez une femme sur une photographie conservée en musée.
Emma Calvé a donc mené une vie de pionnière, et c'est bien pour cela qu'il est important, selon Justine Wojtyniak et Katia Fersing, de faire dialoguer sa vie avec le temps présent. Et c'est tout l'enjeu de cette résidence au musée.
Notre intention ici au musée de Millau et des Grands Causses, c'est vraiment de relier ces objets, ces récits, ces fictions liées au temps passé à nos problématiques d'aujourd'hui et de voir dans quelle mesure elles s'éclairent les unes les autres.
Justement, je trouve ce qui est le plus séduisant dans le projet, pouvoir activer les archives, pouvoir le mettre en jeu en temps présent et dans nos contextes d'aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes dans un rapport extrêmement codifié aux objets. Il y a une forme de relique, de trace de mémoire, mais on a vraiment cette impression qu'on regarde quelque chose qui appartient au passé. Qu'est-ce que ça nous fait de voir ces photos, de voir ces objets, de considérer ces lettres, sa correspondance, pouvoir accéder à une part d'intime de quelqu'un qui est muséifié, c'est-à-dire enfermé dans une seule image. Je pense que c'est là le travail le plus intéressant pour moi, c'est de trouver ces éclats d'intimité, d'imaginer à partir de ce qui transparaît de sa vie personnelle. En fait, ce qui nous touche peut-être le plus, ce n'est pas les objets de scène, mais les objets de sa vie quotidienne. C'est vraiment de puissants matériaux de fiction.
Un autre aspect très particulier de la vie d'Emma Calvé, c'est sa passion pour l'occultisme et le spiritisme, qui pour Justine ont en commun le rapport à l'invisible, un thème qu'on retrouve souvent dans ses créations théâtrales.
Le rapport à l'invisible m'est très cher. Je pense que c'est aussi peut-être un thème qui nous est cher à toutes les deux, à Katia et moi. Les théâtres, l'art de convoquer les fantômes. C'est exactement peut-être la raison de mon invitation ici. Et puis c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à ces séances de spiritisme, ces deux formes de théâtralisation de soi, de mise en lien avec l'invisible, avec nos chers disparus, les personnes qui ne sont plus là mais qui ont des choses à nous apprendre. Et c'est vrai qu'au théâtre, on fait énormément ça, mais comme dans les séances de spiritisme, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle, elle cherchait aussi en étant aussi adepte de ce table tournante, on pourrait se dire aussi c'est une époque, c'était très à la mode, mais j'ai l'impression qu'elle voulait aussi tisser ses liens à l'invisible, donc ce qui nous réunit, voilà.
En effet, la restitution publique de sa résidence se conclut par une sorte de séance de spiritisme.
On se donnait la main et on fermait les yeux. Je vous les conseille vivement. Pour générer une énergie dans un même espace-temps et pouvoir voyager dans l'invisible. Réunis là, ce soir, nous partirons et pourront peut-être reprendre la cérémonie là où elle l'a laissée.
Un début de création qui rencontre déjà des retours positifs parmi les personnes présentes à cette sortie de résidence.
C'était très intéressant pour moi parce que bon, on a fait un petit voyage en fait dans une époque que j'apprécie beaucoup et j'apprécie beaucoup sa façon de vivre, de voir les choses jusqu'au fond de sa vie. Elle a vécu d'une manière que j'ai beaucoup appréciée.
J'ai trouvé que Justine propose là un moment très très vivant autour des Macalvées et très beau, très, très émouvant. Ça fait du bien de voir le théâtre et le musée ensemble et c'est une super proposition qu'on a envie vraiment de voir encore.
Rendez-vous en 2025 pour découvrir l'intégralité de cette création théâtrale ainsi qu'une exposition temporaire consacrée à Emma Calvé au musée de Millau. C'était Katia Fersing et Justine Wojtyniak de la compagnie Retour d'Ulysse à la sortie de sa résidence de création autour d'Emma Calvé, la cantatrice de la Belle Époque. Et pour terminer cette émission, je vous propose une interview qui nous rappelle que le printemps a déjà bien commencé. J'ai interrogé Céline d'Aporia Culture à propos de la nouvelle saison artistique Les Petites Ailes à Ping Pong le Toit à Millau. Donc vous avez lancé la saison du printemps, Les Petites Ailes, avec deux expositions et plusieurs événements à Ping Pong le Toit à Millau. Donc ça a commencé le 2 avril et ça se termine globalement le 28 juin. Les Petites Ailes, c'est le thème commun de ces deux expositions, c'est les oiseaux. Jusqu'au 30 avril, c'est l'exposition Les Éclats Vagabonds, avec des illustrations de Pauline Commis aussi, qui est visible donc à Ping Pong le Toit. Alors Céline, cette porte d'entrée des Petites Ailes, c'est voilà, un thème sur les oiseaux, mais ça permet aussi d'explorer la biodiversité, peut-être le rapport au vivant, à la nature aussi.
Exactement, ça fait partie effectivement des thématiques qu'on aborde dans la programmation culturelle au tiers-lieu Ping Pong le Toit depuis 3 ans. On avait défini avec Denis Cabiron, qui est le gérant du tiers-lieu, plusieurs thématiques, et notamment celle de la biodiversité et du rapport au vivant qui nous tient à cœur. Donc pour être un peu plus précis chaque année et puis avoir une thématique un peu plus resserrée, on choisit. Donc cette année c'est les oiseaux, l'année dernière par exemple c'était plus sur les insectes et les jardins, voilà. Donc cette année sur les oiseaux parce que on a des actualités avec des illustratrices que je connaissais bien et qui sont déjà intervenues les années précédentes sur d'autres actions d'Aporia Culture, notamment en milieu scolaire, et ça m'intéressait de poursuivre nos aventures communes en valorisant les ouvrages que ces illustratrices ont publiés. Donc voilà, et de valoriser aussi d'autres partenariats comme les liens qu'on a depuis quelques années avec le Festival du Livre Jeunesse du Vigan, qui est juste de l'autre côté, côté Cévennes, donc pas très loin, de l'autre côté d'Écosse, et qui fêtait l'année dernière les 10 ans. Et donc cette exposition qu'ils ont mis en place, qui s'appelle « Les Éclats Vagabonds », tourne chaque mois dans un lieu différent et donc on s'était positionné pour pouvoir l'accueillir ce mois d'avril. Voilà. Donc effectivement, on a démarré les Petites Ailes le 2 avril et on a accueilli le 3 et le 4 avril l'illustratrice Pauline Commis qui est une des illustratrices invitées des Éclats Vagabonds et à qui on a demandé des illustrations supplémentaires pour constituer une exposition un peu plus importante et rentrer dans la thématique des oiseaux puisqu'elle a publié une quinzaine de livres et puis de jolis ouvrages de contes qui justement font transformer des gens en oiseaux. Alors j'avais très envie de montrer ces illustrations parce qu'elle a un trait particulier et puis une technique très particulière. Donc voilà, donc elle est invitée le 3 et 4 avril pour démarrer cette saison.
Voilà. Oui, en effet, je suis allée voir ces dessins, ces livres. C'est vrai qu'il y a des dessins qui ressemblent à des collages avec des personnages un peu stylisés, un peu fantastiques. Et c'est une artiste aussi de Montpellier, si je ne me trompe pas.
Pas loin. Voilà, pas très loin. au pied du pic Saint-Loup, plutôt dans la nature, donc dans des villages qui nous ressemblent aussi, au sud des Cévennes.
Ouais, c'est donc, ça aussi qui t'a plu, ouais. Voilà.
Oui, bah Pauline Comi, ça fait une dizaine d'années que je la connais et que je suis ses différents ouvrages, donc ça faisait un moment que j'avais envie de l'inviter. Elle travaille effectivement l'illustration jeunesse en papier découpé, peinture, dessin, pastel, mais beaucoup de papier découpé. Et ce sont des dessins très poétiques, voilà, très, très fins et très pastel. Donc ça m'intéressait de montrer ça. Et elle travaille énormément la thématique de la nature parce qu'elle est dans un petit village au sud du pic Saint-Loup. De chez elle, elle voit voilà, les forêts comme chez nous, les causses, etc. Donc ça nous rapprochait. Et donc elle est très proche aussi de tout ce qui... toute la biodiversité, les animaux et les oiseaux. Et ça lui tient à cœur de le montrer dans ses ouvrages. Voilà.
Et donc tout à l'heure, tu parlais aussi d'autres artistes qu'on avait déjà eu l'occasion de voir à Ping Pong le Toit. J'ai reconnu par exemple le nom de Mathilde Magnan. Elle faisait les illustrations sur les insectes, il me semble, l'année dernière. Et donc cette fois-ci, elle est incluse dans la programmation, enfin dans l'exposition plutôt, Les Éclats Vagabonds.
Exactement, c'est ça qui est intéressant parce que dans le cadre du partenariat avec ce festival du livre jeunesse qui a invité, voilà, en 10 ans, qui a pu inviter peut-être une soixantaine d'illustrateurs et d'auteurs jeunesse, ils ont sélectionné 20 illustratrices et illustrateurs à qui ils ont commandé un dessin pour constituer cette exposition. Et dedans, on a des bonnes surprises parce qu'il y a effectivement Mathilde Magnan qu'on avait invitée l'année dernière et qui présente deux jolis oiseaux aussi qu'on reconnaît bien. Voilà, une huppe faciée et puis un loriot d'Europe si je m'y connais bien.
Ah oui, c'est des oiseaux du coin aussi.
Et c'est des oiseaux du coin, voilà.
Tu disais, Pauline Comi a déjà animé des ateliers artistiques dans quelques classes d'école primaire. Alors, qu'est-ce que les enfants ont fait?
Alors, Pauline, elle a fait effectivement des ateliers. Alors, ça s'est passé à Ping Pong le Toit. On a invité les écoles à venir. Ça leur permettait d'être au cœur de l'exposition aussi et de voir le travail de Pauline. Et on a pu accueillir même 3 classes d'école maternelle. Là, on a ciblé les tout petits. Ça m'importe aussi de toucher des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir des activités culturelles extérieures parce que des fois, ils sont trop petits pour se déplacer ou trop petits pour manipuler. Et là, avec Pauline, on leur a proposé de construire des mobiles oiseaux. Donc, ils ont découpé leurs petits oiseaux. Ils leur ont mis des becs, des plumes, des ailes, des yeux. Et on les a pendus sur des fils. Donc voilà, là, les mobiles sont encore visibles dans l'exposition Ping Pong le Toit. On attend de finir les vacances et on ira leur apporter dans les classes à la rentrée. Donc, mais en tout cas, ça leur a bien plu parce que ça, voilà, c'était des moyennes sections et grandes sections de maternelle. Donc ils ont pu découvrir le travail de Pauline et puis manipuler et créer eux-mêmes leurs propres oiseaux. Voilà.
En effet, et donc c'est une exposition et la suivante aussi qui s'adresse en particulier aux enfants. Tu disais donc ça te tient à cœur et c'est aussi une découverte pour les adultes.
Et oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre, on va dire. Oui, en plus, ce qui est intéressant, là, donc cette exposition Les Éclats Vagabonds, donc, qui dure jusqu'au 30 avril, nous mettent à disposition une quarantaine de livres jeunesse, donc qui vont des livres pour la naissance en papier cartonné, facile à manipuler, jusqu'à des livres pour des 11-12 ans, qui permettent de bien découvrir le travail des 20 illustrateurs, illustratrices invités sur l'exposition. Donc, en plus d'avoir une illustration, on peut aussi feuilleter leurs livres. C'est vraiment un débat lecture accessible et disponible en consultation sur place. Donc du coup, les parents qui veulent venir avec les poussettes ou avec leurs enfants, lire les histoires sur place, ils peuvent le faire. On a installé un petit coin lecture avec un tapis, des bacs de livres et des fauteuils pour s'installer, prendre un peu de temps. Donc ça peut être sympa aussi de venir pour partager ça avec ses enfants. Et puis effectivement, là, cette saison de printemps, ça nous tenait à cœur de toucher les enfants, comme on l'avait fait l'année dernière avec l'exposition sur les jardins et puis les insectes de Mathilde Magnan. C'est une saison voilà, où on a envie de partager ces sujets-là en direction des enfants et de toucher le public bah, des 1-8 ans. Voilà. Ça nous semble intéressant. Moi, en tout cas, ça me semble important de faire aussi ce travail de transmission et de partage avec les jeunes et puis de leur faire rencontrer des artistes et de leur faire pratiquer aussi des activités artistiques où eux-mêmes sont créateurs. Ça fait partie des missions de l'association. Voilà.
En effet, et ils étaient contents. Tu as eu des bons retours ?
Ah oui, ils étaient très contents. Ça fait plaisir de voir des enfants curieux et puis heureux de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont donné, qui s'attachent à leur propre petit personnage oiseau. Ils veulent pas les quitter. Donc non, c'est joli à voir. Et puis on sent que bah voilà, on a réussi à créer une petite curiosité ou une petite rencontre sympathique avec une illustratrice. Donc ça, c'est chouette de voir ça. Voilà.
En effet, et donc jusqu'au 30 avril, l'expo est ouverte en semaine. Est-ce qu'il y a d'autres petits événements ou occasions voilà, de découvrir l'expo ?
C'est ouvert tous les jours en semaine, effectivement. Il y a normalement sur le site internet aussi mon numéro pour pouvoir réserver des créneaux plutôt en groupe. On a des structures ou des écoles qui se sont déjà inscrites pour pouvoir venir en groupe et puis voilà, être sûr que l'espace est disponible pour accueillir le groupe. Donc ça, c'est possible aussi. Et dans les événements, normalement, il y a une clôture le 30 avril. Et en plus, dans un autre cadre, il y a l'association Tripphonique qui propose de faire découvrir ses activités, donc plus autour de la musique. Mais comme ça se passe dans la même salle, moi j'invite toute personne à venir à la fois voir l'exposition au dernier moment le 30 avril, mais aussi rencontrer d'autres acteurs culturels et découvrir leur travail autour de l'électroacoustique et de la musique. Donc n'hésitez pas, c'est le 30 avril à partir de 18h30, si je ne dis pas de bêtises.
Ok, super. Et alors, la saison continue ensuite avec l'exposition « Aux oiseaux » de Marion Delattre et Anaïs Massini. Alors, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Peut-être tu veux déjà nous donner quelques avant-premières.
Et du coup, ça démarre effectivement le mardi 7 mai. Avec un premier vernissage le soir à partir de 19h en présence de Marion Delattre et d'Anaïs Massini. Là, pour la petite histoire, on présentera plusieurs illustrations d'un album jeunesse qu'Anaïs Massini a réalisé et publié l'année dernière. Elle a passé plusieurs mois de peinture et de dessin des oiseaux, un peu à la manière des ornithologues et puis des dessins scientifiques. Et elle a écrit des cartes postales à ses oiseaux. Donc voilà, c'est un album où il y a à la fois l'illustration et le texte. Et nous, on va présenter ces illustrations. Elle va aussi compléter cette exposition de panneaux qui vont expliquer sa démarche, en fait. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir ce côté-là, des fois, de l'artiste. Et puis ensuite, Marion Delattre, c'est des illustrations plutôt sur les vautours, parce qu'elle est en train de préparer un carnet de croquis autour des vautours, et ça touche davantage notre territoire. Voilà. Donc vernissage le mardi 7 mai à 19h à Ping Pong le Toit. Et en parallèle, on programme aussi avec Marion Delattre le 7 mai toute une journée scolaire. Donc je me permets de le préciser parce que peut-être que des enseignants nous écoutent. Il y a encore quelques créneaux dans la journée. Marion propose de faire découvrir les oiseaux et reconnaître les oiseaux par le son, par la couleur. Et on va créer au cours de toute la journée, du coup avec les différents groupes qui vont se succéder, une fresque collective. Donc voilà, si vous avez envie de participer avec vos groupes et vos élèves à ce travail-là, n'hésitez pas, il y a encore des créneaux le matin du 7 mai.
Et donc après cette fresque, on la retrouve dans l'expo ?
Oui, ah bah oui, forcément.
C'est le but.
C'est le but, on va l'ajouter dans l'exposition, voilà. Et ensuite, il y a une clôture le jeudi 27 juin à 19h avec Marion Delattre et Anaïs Massini. Et cette fois, c'est Anaïs qui va faire une journée aussi scolaire ou groupe toute la journée du 27 juin et qui propose de partager sa démarche en faisant écrire des cartes postales aux oiseaux. Donc les enfants vont dessiner leurs oiseaux et puis envoyer la carte postale, écrire un petit mot et puis envoyer la carte postale. Donc pareil, là il nous reste des créneaux le 27 juin, donc c'est ouvert pour toutes les classes de primaire normalement. Et voilà. On est en train de faire un partenariat avec la LPO aussi pour pouvoir aussi avoir des ateliers. Alors là, ça sera davantage autour des vautours parce qu'on est sur la thématique et c'est le territoire ciblé ici, voilà, les Grands Causses. Donc ça sera bientôt annoncé aussi sur notre site internet pour que les personnes ou les groupes puissent s'inscrire. Voilà.
Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette saison ou cette première expo donc, qui se termine le 30 avril?
Eh bien, n'hésitez pas à venir avec vos enfants, c'est ouvert.
C'est gratuit.
C'est gratuit, je précise aussi, voilà. Et puis, bah, c'est tout, non, pas plus.
Super, alors merci beaucoup. Donc, je rappelle la saison Les Petites Ailes de Aporaculture à Ping Pong Le Toit, avec deux expositions. La première, ça a commencé le 2 avril et ça se termine le 30. Et ça s'appelle donc Les Éclats Vagabonds, avec des illustrations aussi en plus de Pauline Comi, comme on disait. Et puis ensuite, ce sera à partir du 7 mai, l'exposition Aux Oiseaux de Marion Delattre et Anaïs Massini, toujours à Ping Pong Le Toit. Merci.
Merci beaucoup.
C'est déjà la fin de ce numéro de l'Actu sur un plateau. Merci encore une fois aux personnes que j'ai pu interroger. Philippe Ferré de Mio and Jazz, Christophe Panzani, saxophoniste, qui sera en concert ce samedi 20 avril à la Maison du Peuple à Mio. Merci à Katia Fersing et Justine Wojtyniak. Merci à Céline Gelton-Thomasé d'Aporia Culture. Et merci à toi Nico, à la technique.
Avec plaisir, à très vite.
Ouais, à bientôt. Donc le mois prochain plutôt, un nouveau numéro de l'Actu sur un plateau. Et puis cette émission, quant à elle, est à retrouver sur radiolarzac.org et en rediffusion vendredi à 19h sur nos ondes. Bonne continuation et à bientôt.